Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Monoplace Podcast, épisode 20, un nouvel épisode consacré cette fois au line-up 2022. Voilà, un petit bond en avant, un petit pronostic de ce que seront les écuries la saison suivante. Donc on va se poser toutes ces questions et donc chacun a fait son line-up ici. Et donc on va vous donner un peu nos ressentis et donc les différents résultats des line-up. Avant ça, n'oubliez pas de noter, de laisser un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Je vous rappelle pas l'importance que ça a. Encore merci pour vos écoutes, toujours plus nombreuses, et de vos visites également sur le site. Alors il faut savoir qu'on a dépassé un cap, notamment sur le dernier épisode où on a eu plus de 300 écoutes en une journée, sur le dernier épisode qu'on a fait avec Dany sur le débrief de Silverstone. Donc voilà, merci beaucoup encore pour vos écoutes et vos très bons retours, et n'hésitez pas à noter et à laisser vos notes. Si vous souhaitez suivre également l'actualité de Monoplace, et ben abonnez-vous au compte Instagram monoplace-podcast. Il y a également un compte TikTok qui vient d'arriver, que j'ai ouvert là, voilà, il n'y a pas très longtemps, donc n'hésitez pas également à vous y abonner, à laisser vos messages, et puis donc sur le compte Instagram, vous allez retrouver également tous les liens d'écoute dans la bio, donc sachez qu'on est dispo voilà, sur toutes les plateformes d'écoute. Et bien sûr, n'oubliez pas aussi le site internet monoplace-podcast.com, où là cette fois on est vraiment sur des articles de fond concernant la F1, donc n'hésitez pas à vous y rendre également. Pour ce soir, et ben encore une fois, je ne suis pas seul et tant mieux, et j'accueille Dany avec moi, qui était déjà avec moi sur le podcast précédent. Salut Dany.
Salut.
Comment ça va?
Et bien ça va très bien, et toi?
Bah écoute, ça va bien, ouais, nickel. Bah, voilà, quand on fait un podcast, ça va toujours bien, c'est cool.
Exactement.
Et nous avons également un nouveau venu avec Chris, qui est avec nous. Salut Chris.
Salut Dany, salut JM. Comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Donc Chris, tu es le nouveau venu dans l'équipe. Tu es rédacteur sur le site et donc du coup maintenant tu participes au podcast, et je te laisse te présenter voilà, brièvement pour les personnes qui du coup ne te connaissent pas encore.
Eh bien écoute, bonjour à tous, donc moi c'est Chris, fan de F1 depuis plusieurs années maintenant, alors avec entrecoupé de pauses parce que les premiers souvenirs remontent à une vingtaine d'années avec, pour ceux qui connaissent, Mika Hakkinen. Ouais. Je regardais ça le dimanche après-midi avec mes parents, souvent après le poulet frit du dimanche et le Walker Texas Ranger traditionnel. Et ouais. Puis après, on enchaîne à
l'ado. Ça fait l'air
d'année, ça. Ouais, ouais. Et ça lui rappelle son enfance, je pense aussi.
Walker, tout ça.
Oui, c'est ça. Et puis après, après l'adolescence, j'ai continué à suivre. J'ai eu une grosse pause quand c'est passé sur Canal. Ouais. Au niveau GP, je suivais toujours l'actu F1 et autres. Et puis j'ai repris avec la première saison de Drive to Survive. Et puis là, je suis retombé à fond dedans. J'ai pris les abonnements F1 TV. Et puis maintenant, quand il y a les week-ends de GP, c'est pas la peine de me répondre. J'hiberne.
Voilà. C'est bien.
Au moins comme ça. Ouais, le week-end de F1, c'est F1 et rien d'autre.
Voilà. Bah, écoute, t'as bien raison. Et donc, tu as un compte TikTok également, où tu as plus de 3000 abonnés maintenant.
Exact. Un compte TikTok que j'ai ouvert très clairement sans aucune ambition. Ça devait être Imola ou Portimao, je sais plus exactement. Ça devait être Portimao, il me semble, puisque je crois que la première vidéo, il me semble que c'était sur l'erreur que fait Kimi là, après le premier tour de course où il va casser son aileron en accrochant l'arrière de Giovinazzi. Mm-hmm. Et puis, j'ai pris goût, je me suis lancé petit à petit. Des premières vidéos, pas face cam, et puis après face cam. Ouais. Et puis après, j'ai pris un créneau qui n'était pas hyper présent, qui était le traitement de l'actualité. Et au final, ça a pris, les gens suivent. Alors bon, malgré mes 3300 abonnés, j'ai une bonne partie de haters comme tout le monde, mais ça va avec le package.
Ouais, bah ça.
Mais bon, après voilà, après je pense que, enfin, je veux dire qu'avec avec mon âge, je veux dire, j'arrive à gérer ça et à
prendre du recul.
À prendre du recul et à le laisser passer au dessus. Voilà,
Il y a aussi des gens sympas comme nous.
Exactement. Exactement.
Heureusement, sinon on arrêterait. Hein.
Heureusement qu'il n'y a pas que des haters, parce que j'avoue que je prends ça avec beaucoup de recul, mais certains, arrivent, à mettre, certains arrivent à mettre mon capital patience à rude épreuve.
Oui, oui, bah ça, malheureusement, c'est les réseaux sociaux, quoi.
Ouais, après, voilà, après, ça fait partie du folklore, hein. Tu prends les bons et les mauvais moments, quoi. Tu peux pas,
exactement.
Tu peux pas choisir que les bons, quoi.
Non, exactement. Bon, en tout cas, merci, Chris, de nous rejoindre. Ça fait plaisir. Et en plus, je ne savais pas, tu as déménagé à Nantes, donc tu es Nantais comme moi, du coup.
Exactement. Pas d'origine, Nantais comme toi, voilà. Et puis, ben, plaisir partagé pour l'aventure.
Voilà. Bon, bah, bienvenue, en tout cas, et ravi de t'avoir dans l'équipe.
Bienvenue, Chris.
Bienvenue, Chris.
Merci.
Donc, comme je le disais, du coup, on va passer en revue notre line-up 2022, parce que l'actu de la F1, c'est aussi ça. La saison, elle n'est pas encore terminée, qu'on parle déjà de l'année prochaine, forcément. Déjà parce que, bon, bah, nouveau règlement, nouvelles techno, etc. On a vu les nouvelles voitures, voilà, en gros, parce que ça ne sera pas tout à fait les mêmes, mais on a eu quand même un aperçu assez solide. Et puis, bah, forcément, les rumeurs, il y a beaucoup de rumeurs, et donc on va en parler, on va les alimenter. Et je vous propose tout de suite de commencer par Mercedes. Déjà, il y a un pilote sur lequel on n'a plus besoin de se prendre la tête, c'est sur Hamilton, déjà, puisque ça y est, il a prolongé. Et il a prolongé donc jusqu'en 2023 pour donc deux saisons supplémentaires. C'était dans l'air déjà depuis un moment. On savait que Mercedes souhaitait le prolonger rapidement et avant la trêve estivale. Du coup, maintenant, c'est chose faite. Donc, parlons surtout du deuxième pilote, parce qu'on le sait aussi, Bottas est en fin de contrat avec Mercedes, et des rumeurs disent qu'il commence à s'impatienter, il irait même jusqu'à mettre la pression sur eux pour obtenir une clarification de sa situation. On sait également que Toto Wolff est intervenu il n'y a pas très longtemps pour dire qu'il ferait tout au cas où, s'il ne le gardait pas chez Mercedes, de lui trouver quand même une nouvelle écurie. Donc, ce qu'on est à peu près sûr en tout cas, c'est que Bottas sera en F1 l'année prochaine. Par contre, dans quelle écurie? Et donc, je vous donne la parole ensuite, mais pour moi, chez Mercedes, je pense que le truc qui sera en tout cas pour moi le plus logique, ça sera Hamilton accompagné de Russell. Pourquoi ? Parce que il me semble plutôt évident que Russell viendra compléter le duo. C'est un pilote Mercedes, c'est un pilote qui monte. Et puis je pense que c'est aussi l'avenir de Mercedes, donc moi personnellement c'est en tout cas lui que je vois aux côtés d'Hamilton, et donc je vais passer la parole à Dani, donc de voir si tu es d'accord ou pas avec moi, et bah, de donner toi ton ressenti et donc ton pilote Mercedes de l'année prochaine.
Eh bien, je te rejoins aussi sur Russell, j'ai peu de doute que ça ne soit pas lui, dans le sens où c'est un peu une suite logique finalement, hein, il a été un peu préparé à ça. Et, et si toutefois il ne prenait pas Russell, ce qui pour moi me paraîtrait complètement fou, ça serait le risque qu'il aille ailleurs et au mauvais endroit, entre guillemets. Donc non, moi je mise aussi sur Russell.
Ok. Et toi, Chris, du coup?
Alors, moi je mise aussi, enfin, je mise sur Russell. La promotion de Russell chez Mercedes, c'est quelque chose que je défends depuis le début de la saison, en fait. J'ai jamais changé de ligne directrice par rapport à ça. Parce que pour moi, je vais dire que on est. Alors, certes, j'ai eu des avis d'autres amis TikTokers ou autres par rapport à la nouvelle réglementation, que ça pourrait être compliqué de faire passer Russell l'année du changement de réglementation. Ouais. Alors, je suis d'accord avec ça aussi. Maintenant, je veux dire, hormis le fait que. Il y a quelques changements dont on pourra parler plus tard parce que ça va prendre trop de temps. Je pense que Russell, avec son expérience à F1, est capable de s'adapter à la nouvelle réglementation. Mmh. Et le laisser une saison de plus chez Williams pour s'y adapter, je pense pas que ça soit vraiment le bon compromis, parce que personne ne sait ce que sera la Williams l'année prochaine. Donc si c'est pour s'adapter sur une voiture qui va jouer le fond de grille avec les As, quel est l'intérêt pour moi? J'en vois pas vraiment.
Bah, c'est ce que honnêtement je pensais, parce qu'il y a des gens qui disent que il doit encore continuer son expérience chez Williams et tout. Enfin, en tout cas pour moi l'expérience c'est clair, il l'a évidemment. Et puis je pense que maintenant s'il a envie de progresser, il faut qu'il aille au-dessus. Et surtout que moi je vois pas du tout Mercedes re-signer Bottas l'année prochaine aussi. Et donc, comme Dany disait, je pense que c'est le bon timing aussi pour le faire signer définitivement chez Mercedes.
Et puis surtout, je trouve que ça serait envoyé un peu un mauvais message de ne pas faire monter Russell à ce moment-là, en fait.
Ouais.
Je ne suis pas sûre que ça serait bien perçu déjà par lui-même. Peut-être que ça pourrait le heurter dans ce qu'il pensait. Et même globalement, je pense que c'est au contraire le bon moment de le faire passer. Il y a une réglementation, certes, mais il en est tout à fait capable, quoi.
Après, tu vois, moi, je pense que au niveau du timing, on ne peut pas trouver le timing plus parfait parce que tu prends George Russell chez Williams qui fait très régulièrement des Q3, qui de toute façon en qualification, excusez-moi le terme, éclate Latifi sans aucune difficulté. Le seul problème de la Williams, c'est qu'elle a zéro rythme de course. Donc automatiquement, dès que tu as, en Autriche, un Fernando Alonso enragé derrière qui veut aller récupérer des points, malheureusement, George Russell, ça a beau être un monstre, il est handicapé par sa monoplace.
Bah, si la voiture ne suit pas, oui, c'est sûr.
Voilà. Et là où je trouve que le timing est plutôt parfait, voire même carrément parfait, c'est que pour moi, Bottas chez Mercedes, il est clairement il est en perte de vitesse. Mmh. Et l'idée de pouvoir se relancer ailleurs, qui plus est avec la rumeur du projet Alfa Romeo, où il pourrait à la limite aller chercher une place de leader, parce que je pense qu'avec l'expérience qu'il a chez Mercedes, il peut largement faire du retour en piste, et il peut, je pense, largement faire le job chez Alfa. Pour moi, j'ai l'impression, tu sais, que c'est le timing tombe sous le sens, tu vois. Tu fais monter un jeune pour préparer l'avenir, mais tu permets à Bottas d'aller récupérer un poste qui est quand même plus performant chez Alfa Romeo que de faire un retour chez Williams, qui serait presque une pré-retraite, quoi, tu vois.
Totalement. Tu as tout dit. Tu as tout dit.
Bah, tu vois, alors c'est marrant parce que j'avais écrit un article sur le line-up l'année prochaine. Moi, bizarrement, je le voyais bien chez Williams, mais effectivement, après réflexion, je pense qu'Alpha, ça serait vraiment une très très bonne idée, effectivement, qu'il y aille. Mais bon, on reviendra après sur Alfa Romeo plus tard. Mais effectivement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur Mercedes ou d'autres pilotes auxquels vous pensez éventuellement que Hamilton pourrait avoir en copilote l'année prochaine?
Hormis George Russell, hormis George Russell en pilote vraiment, on va dire vraiment intéressant pour Mercedes, on a eu ces rumeurs. Donc la première sur Esteban Ocon, mais qui a été vite balayée parce qu'il a prolongé avec Alpine, et parce que bon, honnêtement, si Gasly avait pas le niveau de Red Bull en 2019, Ocon il a jamais le niveau de la Mercedes pour 2022.
Je pense qu'on est tous d'accord. Chez Mercedes.
Le côté chauvin des Français. Un pilote français dans la meilleure équipe du plateau qui peut jouer le championnat du monde. Qu'est-ce que tu veux que les Français demandent de plus?
Qu'il a pris un petit peu cher, là, le Ocon, là, récemment, donc avec les déclarations. On en reparlera peut-être plus tard.
Non, honnêtement, ouais, moi, je le vois pas. J'ai jamais vu chez Mercedes. Autant Gasly. Je pense qu'il a l'étoffe d'y aller, mais il n'ira pas.
Gasly a l'étoffe d'y aller, mais on est d'accord que cette rumeur, elle est née d'un tweet Mercedes. Et pour moi, ce tweet, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que je vais trop loin, c'est possible. Mais pour moi, ce tweet, c'est ni plus ni moins qu'un coup de com' pour détourner l'attention de la communauté F1 du cas Bottas-Russell. Pendant qu'on parle de Gasly, on ne parle pas de Bottas-Russell.
Ouais, et puis c'est surtout qu'à l'époque, quand cette rumeur a été lancée, quand le tweet a été lancé, Hamilton n'avait pas encore signé. Donc il y avait aussi ça, que derrière, ça pouvait aussi être une bonne occasion de travailler contractuellement aussi avec lui, histoire un peu de, pourquoi pas, effectivement, brouiller un peu les pistes, quoi. Mais bon, après, est-ce que après c'est vraiment ça ? Je ne sais pas, mais bon.
Après, ceci dit, sur Hamilton, il a quand même, faut le dire, très bien joué son coup, parce que rappelle-toi l'année dernière...
Bah oui.
Il exige 3 ans de contrat à 50 millions par an. Il les a pas.
Il est malin, hein. Il est malin.
Il signe qu'une année en disant, bon, les gars, tranquille, allez, je prends une année. On verra la fin de la saison. Et là, il fait quoi? Il signe 2 ans à 50 millions par an. Avec un poste chez Daimler à la fin de sa carrière.
T'inquiète, il est demandé de con.
Si c'est pas du génie, je sais pas comment ça s'appelle.
Du génie, clairement. Après, moi, Gasly chez Mercedes, je pense que je vais l'avouer tout de suite. Et maintenant, c'est un peu un rêve secret. Voilà, je le dis.
Oui. Ah, après, moi, j'aimerais bien le voir revenir chez Red Bull, mais honnêtement, je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne idée pour lui.
Pas
mais...
moi, pour le coup.
Mais...
Moi non plus.
Sur rien.
Surtout quand tu vois le comportement de Horner ces dernières semaines.
Ah,
je vois pas comment ce gars-là et Marco là, pourrait accepter de dire haut et fort devant toute la F1, de dire, écoutez les gars, on s'est planté sur Gasly, donc on va dégager Perez et le reprendre. Jamais de la vie. Jamais de la vie.
C'est impossible.
Jamais.
Bon, après, ça reste quand même difficile, mais honnêtement, un pilote comme Gasly dans le futur, chez McLaren ou chez Ferrari, honnêtement, ça serait quand même la classe. Quoi.
Chez McLaren, j'y crois quand même beaucoup plus, parce que ça va dépendre de la saison 2022 de Ricciardo, mais ça, on en parlera plus tard. Ouais. Mais je pense que pour un line-up sur la saison 2023, c'est largement plus crédible chez McLaren que sur n'importe quelle autre écurie.
Franchement, ça aurait de la gueule. Bon, sinon, Hamilton aussi, qui reconduit jusqu'en 2023, on est d'accord, c'est une bonne chose.
Bah, c'est une bonne chose pour lui parce qu'il veut aller chercher ce fameux 8e titre pour être sûr et certain d'être le meilleur de l'histoire, en termes statistiques, parce qu'encore une fois, dire que Hamilton est le meilleur de l'histoire, voilà, on ne peut pas comparer les époques, donc c'est un débat sans fin. Mais en termes statistiques, ça sera le meilleur de l'histoire, quoi qu'il arrive, parce que 8 titres de champion du monde, personne ne l'a fait encore.
Ça.
Maintenant, est-ce que la Mercedes sera compétitive au point de jouer le titre la saison prochaine? Bonne question. Où sera Red Bull? Bonne question. On peut avoir des surprises avec McLaren et Ferrari qui peuvent faire un step monumental vers la première place. J'y crois moyen, mais pourquoi pas?
Surtout qu'Honda s'en va aussi. Hein. Donc là, on sait que c'est le moteur aussi hein, cette année chez Red Bull qui fait toute la différence.
Honda s'en va, mais l'année prochaine, tu as un moteur Honda dans la Red Bull qui s'appellera juste Red Bull Powertrains.
Ah bah oui, il récupère les plans et tout, oui, bien sûr.
En fait, le moteur, il change juste de nom. T'enlèves l'autocollant Honda et tu mets un autocollant Red Bull dessus. Hein.
C'est ça. Oui, bah, il le rachète. Quoi. Voilà, c'est
exactement ça. Quoi,
il rachète les plans et voilà. Et donc voilà pour Mercedes et on va passer tout de suite à Red Bull. Je pense que ça va être plutôt rapide. Pas de surprise pour le pilote néerlandais. Hein, il devrait remplir sans problème, surtout avec la saison qu'il est en train de réaliser. Même si beaucoup, comme Zak Brown, le patron de McLaren, le voit signé chez Mercedes, mais alors personnellement, je ne le vois pas du tout y aller en 2022. Et non seulement il est encore sous contrat jusqu'en 2023, et tant qu'Hamilton sera chez l'écurie allemande, aucune chance qu'il y soit avant son départ de toute façon. On va plus s'attarder sur Perez, parce que Perez avait signé un contrat d'un an. Il a montré son talent, il a montré son utilité, surtout c'est un pilote qui ne fait pas d'ombre à Verstappen, hein, c'est aussi important. Pour moi, il devrait logiquement prolonger. Après, si ce n'est pas le cas, parce qu'on sait que notamment en qualification, il a toujours un petit peu de mal, et puis le Grand Prix de Silverstone n'a pas été spécialement brillant pour lui. Deuxième option potentielle pour moi, ça serait un retour de Gasly chez Red Bull, si Perez n'est pas reconduit. Donc pour moi, c'est l'alternative. Et si Gasly s'en va du coup d'AlphaTauri, pour moi, ça serait plus Albon qui pourrait alors devenir deuxième pilote chez l'écurie italienne. Voilà, donc alternative Gasly, mais je vois quand même Perez effectivement être reconduit pour l'année prochaine. Dani, qu'en penses-tu ?
Eh bien, je pense comme toi sur Perez, je pense qu'il sera reconduit pour l'année prochaine. Effectivement, il fait le job, il ne fait pas d'ombre, il est présent quand c'est nécessaire, il marque des points, donc je pense qu'il va re-signer. En revanche, Albon, j'y crois absolument pas. Et Gasly, pour le coup, je ne lui souhaite pas de retourner chez Red Bull. J'aimerais qu'il ait peut-être plutôt d'autres horizons.
Ok, très bien. Et toi, Chris ?
Alors, je vais rejoindre les deux avis sur Perez, parce que je vois pas sur quels critères tu peux te baser pour dire à Perez en fin de saison, écoute Sergio, on ne va pas te garder, parce que alors certes, il a perdu sa voiture à Chapel un peu bêtement, mais bon, voilà, il y a pas mort d'homme par le fait qu'il gâche la course sprint. Après, je vais dire sur le reste, les 5 premiers GP, on ne les prend pas en compte parce que, bon, il avait dit de toute façon qu'il lui faudrait 5 courses pour s'adapter.
Ouais, bah c'est logique. Hein.
Et contrairement aux autres, il s'est adapté à une Red Bull auquel aucun autre pilote n'a réussi à s'adapter. Donc, ça, c'est à mettre à son crédit aussi. Mm-hmm. Après, pour Albon, Je vais dire, c'est comme pour Gasly, en fait, parce que quand tu sais que Red Bull a clairement cassé la carrière d'Alex Albon en lui mettant une pression de dingue pendant 6 mois d'affilée, mm-hmm. quel intérêt d'aller le rechercher maintenant, en fait ?
Bah, ouais, on est bien d'accord.
Parce que tu te caches derrière le fait de dire Helmut Marko be like. Tu te caches derrière le fait de dire ouais, Hamilton avec son accrochage à Spielberg dans le virage 4, il a gâché la carrière de Albon. Ouais. Non. Marco, t'as gâché la carrière de Albon. Hamilton, il y est pour rien, ouais. En fait. Certes, ouais. L'action, elle est discutable, mais la pression, c'est pas Hamilton qui l'a mis sur les épaules d'Albon, c'est Red Bull. Comme sur beaucoup de pilotes d'ailleurs, donc.
Alors, en sachant en plus que pour le contrat de Pérez, hein, je crois que c'était Marco d'ailleurs qui avait dit qu'il n'y aurait pas de négociation pour le contrat de Pérez, donc pour le deuxième pilote Red Bull en tout cas, avant cet été, il n'y aura pas de décision avant la pause estivale. Et apparemment, ils ne sont pas spécialement pressés de faire re-signer quelqu'un pour l'année prochaine. Et je crois d'ailleurs qu'il avait dit que... Alors attends, j'essaie de retrouver ce qu'il avait dit. Voilà, il a dit « Nous sommes maintenant entièrement concentrés sur le championnat du monde et nous n'y voyons pas de problème quant à savoir qui sera le coéquipier de Verstappen l'année prochaine. Ça sera certainement un gars compétitif, mais il y a encore du temps. » Marco, par ailleurs, avait déclaré que Pérez avait montré des signes qu'il pouvait égaler Verstappen. Il a dit « Commençons par le positif, c'est la performance en course, c'est très bon, parfois au niveau de Max, il l'a prouvé à Monte Carlo lorsque nous sommes allés chercher l'overcut. C'était pendant 3 ou 4 tours, il a fait les tours les plus rapides au total, avec des pneus déjà très usés, donc le rythme de course est là, le domaine dans lequel nous avons encore des lacunes est celui des qualifs, nous devons nous améliorer dans ce domaine. » Voilà, donc, bon, pour moi ça sent quand même plutôt bon pour qu'il le re-signe, mais bon, ils ne sont pas spécialement pressés effectivement de le faire, en tout cas tout de suite.
Après,
vous avez d'autres choses à rajouter.
À Red Bull de faire attention aussi au niveau du timing, parce que Pérez étant cantonné à un pur rôle de numéro 2 qui, dans les réunions, ne doit pas être aussi écouté que Max Verstappen.
C'est ça.
Attention, s'il y a une équipe qui cherche un numéro 1, il est capable de pouvoir dire bah, « Écoutez, les gars, moi, on me propose un poste de numéro 1 leader d'équipe. » Avec un poste de numéro 2 chez Red Bull, même si c'est une écurie qui est légèrement en dessous de Red Bull dans le classement, mm-hmm. ça peut faire tourner la tête à Sergio. Ouais,
je suis pas d'accord avec toi sur ce point-là, parce que quand il est venu, Pérez, chez Red Bull, enfin, à mon avis, il n'y a eu aucun... C'était pas masqué, il savait qu'il allait être numéro 2. Donc, au final, soit c'est deux écoles, soit il se dit « Ok, je fais un peu mon temps en numéro 2 chez Red Bull, parce que c'est quand même Red Bull, et après, je vais avoir une place de numéro 1 ailleurs. » Soit il se dit, bah, en fait, ça me va très bien et il sait pourquoi il l'a signé, en fait. Donc, je suis un peu plus nuancé que toi.
Après, honnêtement, si admettons que Red Bull ne reconduise pas Pérez l'année prochaine, le problème, c'est que Pérez, il va où ?
Ben, là, sur le classement actuel, qui c'est qui va chercher des pilotes à part Alfa Romeo ? Et Williams,
c'est pour ça que moi,
j'en vois pas d'autres.
Moi, j'en vois pas d'autres, et puis je vois pas Williams ou Alfa Romeo signer Pérez. Donc pour moi, ça signifierait éventuellement que Pérez a pas de backer en 2022.
Après, je te donne que ces deux écuries-là, mais on est à l'abri de rien avant la fin de la saison. Hein.
Clairement.
Tu sais très bien qu'en Formule 1, c'est pas parce que tu signes un pilote 1 an, 2 ans ou 3 ans, ah bah, parce que...
Oui, bien sûr. Bah, c'est comme en foot, hein. Les contrats, ça ne veut plus trop rien dire maintenant. Tu peux signer très bien 5 ans et te barrer au bout d'un an ou 2 ans, c'est clair.
Ouais.
Mais ok, bon, on est plutôt d'accord, Verstappen et Pérez pour l'année prochaine.
Oui.
Okay. Oui, on est d'accord.
On est d'accord. On va passer très très vite sur McLaren. Pas de surprise et surtout pas de prédiction spécialement à faire parce que les contrats sont signés et rien ne bougera chez l'écurie anglaise, en espérant que Ricardo sera quand même plus fort, car cela pourrait quand même énerver un peu les patrons. Alors, il a montré quand même de très belles choses à Silverstone, donc je pense que maintenant, ça devrait plutôt rouler pour lui. Norris et Ricardo l'année prochaine, bon, Norris, c'est sûr et certain. Ricardo, on est sûr aussi.
Oui, on est sûr aussi. Après, c'est vrai qu'il a fait un dernier Grand Prix qui était bien mieux que tout le reste. Mmh. Après, il y avait aussi du mieux au Grand Prix de France.
Ouais.
J'ai pas de doute parce que c'est signé, mais comme l'a dit Chris tout à l'heure, au final, même si c'est signé, ça peut se dessigner. Donc, moi, Ricardo, je suis quand même pas non plus entièrement... Enfin, je dis pas qu'il va pas être signé l'année prochaine, mais je garde une petite réserve. On sait jamais. Pour le coup, on sait jamais.
Il est signé pour l'année prochaine.
Il est signé, ouais.
Ah ben oui, oui, puisqu'il il avait prolongé son contrat à peu près.
Ouais.
Non, oui, c'est ce que j'ai dit.
Ah d'accord, ok.
Après, c'est ce que disait Dani, c'est que pour elle, il y a pas non plus un risque zéro de pas le revoir chez McLaren l'année prochaine.
C'est
plus dans ce sens-là qu'elle le disait.
Après, en général, les premières saisons de Ricciardo. C'est pas des saisons que tu prends en compte, parce que si tu regardes bien quand il arrive chez Renault, la première saison, elle est dégueulasse. La deuxième, elle est à peu près intéressante avec quelques podiums en fin de saison. Même si je trouve que pour le coup, le comportement de Ricciardo envers Renault avait été vraiment désagréable parce que il a taillé la zone avant même que le championnat 2020 commence. J'ai trouvé ça moyen. Je pense pour le coup que McLaren sera plus propre envers Ricciardo que Ricciardo ne l'a été envers Renault. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il aura une chance pour la deuxième saison. Mais la deuxième saison, il faut capitaliser en 2022, il n'a pas le choix.
Ouais, bah, c'est surtout qu'en plus Ricciardo a tellement cette envie de devenir champion du monde que malheureusement, il l'a dit il n'y a pas très longtemps, il avait appelé Horner pour dire qu'il avait regretté d'être parti de chez Red Bull. Pour aller chez Renault. Chez Renault, on savait pertinemment qu'il ne pouvait pas être champion du monde chez Renault. Donc honnêtement, moi, je n'ai jamais compris pourquoi il était chez eux. Mais bon, pourquoi pas.
Est-ce que ce n'est pas trop tard?
Moi, je pense que c'est trop tard maintenant pour qu'il le devienne. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que lui maintenant.
Surtout qu'il a dit, Ricardo, que s'il n'est pas champion du monde avant ses 35 ans, donc sachant qu'il a 32 ans, ça ne lui laisse que 3 ans, et même, je dirais, pratiquement 2 ans... Pour moi, ça me paraît compliqué qu'il puisse avoir le titre un jour. Et effectivement, s'il se plante sur 2022, je ne suis pas sûre que 2023 soit des meilleurs augures pour lui. Et du coup, jamais de titre pour lui. Quoi.
Et puis surtout, je ne le vois pas aller dans une autre écurie après McLaren, honnêtement.
Moi, je vous pose juste une question sur Ricciardo. Étant donné que McLaren, le numéro 1, et je pense qu'on peut ne pas se le cacher, c'est Lando Norris. Est-ce que vous croyez deux minutes, même s'il gagne, même s'il récupère une performance pour jouer un titre, est-ce que vous croyez que McLaren va dire à Norris, on te met de côté une saison pour faire jouer le titre à Ricciardo?
Jamais de la vie.
Pour moi, Ricciardo, ça me fait tellement mal au cœur.
Norris, c'est l'avenir.
Pour moi, les carottes sont cuites pour lui.
C'est pour ça que moi, je pense qu'il a clairement...
Norris, c'est la tête de gondole.
Il a abandonné ses chances d'être champion en quittant Red Bull pour Renault.
Ouais, tout à fait. Il s'est cramé pour aller chez Renault. Et honnêtement, j'ai jamais compris. Et d'ailleurs, c'est bien illustré d'ailleurs dans Drive to Survive, où honnêtement, les mecs, ils en reviennent pas qu'ils signent chez Renault. Honnêtement, personne n'a compris pourquoi il est signé là-bas. Quoi.
Après, au moment où ça se fait, on peut le comprendre. Le gars veut être champion du monde. Red Bull ne voit que à travers Max Verstappen. On peut comprendre l'idée de partir de chez Red Bull.
Même si je suis un fan de Renault Alpine,
tu quittes pas Red Bull pour aller chez Renault. Pas le Renault de 2019-2020. Pas celui-là.
Tu régresses, quoi. C'est ça le problème.
C'est ça le problème.
Un pilote comme lui, il a besoin d'augmenter son niveau. Il n'a pas besoin de régresser dans une écurie qui lui laissera pas de chance de devenir champion du monde, de toute façon.
Bon, après, écoutez, s'il faut se dévouer pour le consoler, je suis là.
Dani, elle est fan de Ricciardo, elle a des posters et tout.
Ah bon ? Putain, je doutais, j'étais pas sûr du truc.
C'est mon premier
non.
C'est pas vrai. Oh, ça va, c'est pas vrai.
Je pense que c'est son mari. Hein. Je pense que Ricciardo, c'est peut-être le mari de Dani. Hein.
C'est pas possible, il aime pas la F1.
Non, mais en plus, mon mari, le peu qu'il connaît de la F1, il me dit, mais c'est ton frère caché, Ricciardo. Donc là, ça devient un peu chelou. Enfin bon, bref.
Ah oui, là, effectivement, là, c'est un peu bizarre.
Ouais.
Très bien.
Revenons au sérieux, s'il vous plaît.
Revenons au sérieux. On va passer chez Ferrari maintenant.
Ça va être rapide.
Je pense, je pense qu'on sera d'accord. Sainz est en contrat jusqu'en 2022. Pour moi, il bougera pas de Ferrari. Et Leclerc jusqu'en 2024. Donc, aucune chance de voir autre chose pour la Scuderia. On est d'accord.
Je veux pas trop me mouiller, mais je pense même que Ferrari est en train de travailler sur les prolongations des deux.
Ouais. Oui, de toute façon, Leclerc, je pense qu'il est là très longtemps.
Il va faire une Schumacher. Hein.
Je pense. Sainz, non, mais en tout cas, les deux, c'est un duo qui fonctionne quand même très très bien.
Disons que je pense
Ferrari
que...
augmente, quoi.
Disons je pense que Sainz, s'il part, c'est parce que Ferrari fait monter Mick Schumacher, sinon il reste.
Ouais, exactement. Et puis on voit pas Mick Schumacher chez Ferrari l'année prochaine, quoi qu'il arrive.
Alors, je pense qu'il faudrait qu'il fasse un step un peu moins important d'abord.
Ouais, bah oui, exactement. Oui, c'est pas parce qu'il s'appelle Schumacher que
non.
Forcément monter chez Ferrari tout de suite, quoi.
On est exactement.
Ok, bon, on est plutôt d'accord. On va passer maintenant sur Alpine. Je pense que ça va être rapide aussi. Ocon vient de re-signer donc jusqu'en 2024. Et Alonso est en contrat jusqu'en 2022. Ocon est plutôt l'avenir d'Alpine. Alonso est quand même celui qui consolide un petit peu Alpine et qui apporte toute son expérience, son expertise. Il apporte évidemment tout ce qu'il a porté à la F1, hein, c'est-à-dire sa maîtrise du pilotage. Et puis, il apporte énormément de choses, de renseignements. On l'a vu très, très impliqué, notamment la saison dernière, alors que il n'était pas encore chez Alpine, mais il était effectivement bien là avec l'équipe. On est d'accord, Ocon, Alonso l'année prochaine, pas de changement. De toute façon, pour Ocon, c'est sûr, pour Alonso, pareil.
Alors, pas de changement pour l'année prochaine. Maintenant, il faut bien préciser un truc qui est très important pour que tout le monde le comprenne bien. Alonso n'est pas engagé jusqu'en 2022. Alonso est engagé jusqu'en fin de saison avec une année en option.
Ah, une année en option, effectivement.
L'année 2022 n'est pas encore officielle. Laurent Rossi travaille à ce qu'elle soit levée, mais elle n'est pas officielle. Donc là aussi, c'est pareil. Je doute fort qu'on n'ait pas Alonso Ocon en 2022, mais Alonso, c'est pas officiel encore. Maintenant, vu le niveau qu'il a à 40 ans, moi, je suis Laurent Rossi, je lui donne 4 ans de contrat. Hein.
Ouais. C'est clair qu'il est revenu, de ouf.
Dani, toi, pareil. Quand même. Je pense que ça lui plaît au final de...
Ouais.
D'être un peu, comment dire, un espèce de guide. Enfin, j'arrive pas à trop expliquer. Il est là.
Une espèce de petit électron libre.
Ouais, puis même, il a un peu cette aura-là. Je pense que c'est un bon match. Et même si c'est pas, effectivement, c'est une année en option, je pense que ça va quand même re-signer.
Moi, je trouve qu'il est tranquille hein, chez Alpine. Il a pas spécialement de pression. Il apporte son expérience.
Il est chez lui.
Il est chez lui, clairement.
C'est ça.
Clairement, il est chez lui.
T'as bien transcrit ce que je voulais dire. Il est chez lui. C'est exactement ça.
Pour Ocon, donc aucun souci. Alors j'ai écrit un article aujourd'hui le concernant Ocon.
Très bel article d'ailleurs.
Merci. Dani, avec Dani, on est plutôt d'accord. On n'est pas des gros fans d'Ocon. Je ne sais pas toi, Chris, comment tu te positionnes par rapport à lui et par rapport à ce que j'ai mis dans l'article. Alors je récapitule un petit peu. En fait, Rossi a déclaré que il n'a peut-être pas l'étoffe d'être un champion du monde, qui peut être adoubé de cette façon. Pas beaucoup de pilotes en ce moment, et ça, c'est vrai, hein, de toute façon. Et il dit après, je ne laisserai personne dire qu'il est un moins bon pilote que Carlos Sainz ou que n'importe quel lequel des soi-disant second pilotes des meilleures équipes. Donc, au minimum, je me suis trouvé un excellent second pilote, et je pense franchement qu'il a tout ce qu'il faut pour devenir un pilote de haut niveau. Par contre, moi, ce qui me chagrine dans cette communication, c'est qu'à aucun moment il le place en tête de gondole. Et moi, je trouve ça quand même un petit peu. Je sais pas. Je suis pas. Il a re-signé pour 3 ans. Normalement, ça devrait être quand même la tête de gondole quand même d'Alpine, quoi. L'avenir d'Alpine, en tout cas.
Moi, je suis très partagé sur Ocon. J'ai un peu, comment dire, j'ai un peu un double avis, si tu veux. J'ai un avis sur le pilote et un avis sur l'homme.
Ouais.
Sur le pilote, il faut savoir que en début de saison, on est tous un peu fans de F1, je ne vais pas dire estomaqués, mais on est tous un peu choqués de voir Ocon dominer Alonso avec une facilité presque déconcertante. Ouais. On ne sait pas si Alonso il arrive et il est fini, on ne sait pas s'il va reprendre du niveau, mais on voit que Alonso jusqu'à Monaco, il fait du fond de grille avec Mick Schumacher et puis les Williams. Mmh. On voit que Ocon marque des points. Et bizarrement, passé Bakou, les forces s'inversent.
Ouais.
Mais elles s'inversent pourquoi ? Parce que rappelez-vous, les premiers Grands Prix jusqu'à Monaco, Alonso, il galère avec l'Alpine. On voit que le pilotage, moi qui ai connu Alonso dans ses premières années chez Renault, ça m'a frappé. C'était pas le pilotage de Fernando. C'était pas son pilotage. Ouais. Fernando, son pilotage, c'est prendre la voiture et la balancer dans les virages. C'est, voilà, lui, il balance la voiture dans les virages. Et bizarrement, à Monaco, il teste une nouvelle direction assistée. Mais bon, tester des trucs à Monaco, là aussi, c'est un concept que je comprendrai jamais. Il attaque vraiment Bakou avec cette nouvelle direction assistée. Et là, on s'aperçoit de quoi ? Qu'en fait, Alonso, il a jamais perdu le niveau qu'il avait en partant de chez McLaren. Mais par contre, on voit que Ocon, on a l'impression qu'on a enlevé Ocon et qu'on a mis un pilote de F3 à la place. C'est qu'il arrivait. Non, mais il arrivait plus à. Il arrivait plus à maîtriser sa voiture. On le sentait pas à l'aise. On le sentait pas du tout à l'aise avec cette direction.
C'est là
où je peux le comprendre, parce que devoir t'adapter à une nouvelle direction assistée à la vitesse où il roule, faut reconnaître que c'est pas facile. Tu vois, nous on est là, on est dans notre canapé en train de dire ouais, Ocon il est nul. Ouais, enfin on lui a changé des pièces sans trop lui demander son avis parce qu'il fallait faire une F1 pour Alonso. Le gars il tourne sur des circuits à 250 km/h de moyenne.
Alors après, Ocon,
on a pas
moi
dit
je.
Était nul, nous, hein. On a pas dit ça. On a dit.
Non, non. Je dis pas que c'est vous qui l'avez dit. Je parle d'un sentiment général sur la commu.
Tous les réseaux
confondus, si tu veux. C'est, j'ai entendu des Ocon il a fait 17e à Spielberg, c'est une merde. Les gars.
Ouais, mais tu sais que notamment sur Twitter, il a des fans, non, un peu des fanatiques. Moi, je sais qu'une fois, j'avais tweeté un truc sur lui. Il y en avait un, il m'avait défoncé, mais parce que j'avais rien dit de méchant sur lui. Je sais plus exactement ce que c'était, mais il a quand même des défenseurs. Et après, moi, c'est ce que je disais. Je trouve que c'est pas un mauvais pilote, loin de là. Par contre, je dis pas non plus que c'est un crack. Et surtout, moi, ce qui m'embête avec lui, c'est surtout sa mentalité, c'est l'homme, en fait.
Mais oui,
le pilote,
c'est ça.
J'ai pas grand-chose à lui reprocher.
C'est la communication, c'est la personne. M'embête.
Ouais, c'est ça. C'est jamais de sa faute, en fait, à lui.
Mais c'est-à-dire que je pense qu'il devrait prendre, pour le coup, exemple sur Lewis, c'est qu'il devrait aller se chercher une blonde allemande, là, qui va lui apprendre à faire de la communication. Je pense que ça va clairement lui servir, parce que c'est un très mauvais communicant. Et je te rejoins sur le podcast que vous aviez fait le 19 sur Silverstone, où, ben, je suis désolé, mais Pierre Gasly et Leclerc, quand tu les écoutes pour ne parler que d'eux, ils n'ont pas peur de dire on a été nuls, il faut qu'on se remette en question.
C'est exactement ça.
Ocon, je l'entends rarement dire on, surtout quand les performances sont mauvaises.
Exactement. Il a toujours des excuses, et jamais de sa faute.
Voilà, et ça m'embête parce que, certes, les ingénieurs, ils peuvent fauter. Les staffs sur le pit wall peuvent clairement fauter aussi dans les stratégies, mais à un moment donné, je suis désolé, c'est pas Marcin Butkowski qui pilote la voiture, c'est Esteban Ocon. Donc à un moment donné, si Ocon il est pas au niveau, c'est à lui de montrer qu'il va l'avoir, de pas faire regretter à Laurent Rossi de l'avoir signé 3 ans.
C'est ça, exactement.
En tout cas, pour un pilote qu'on n'aime pas trop, on en a parlé longtemps.
C'est vrai. Je cherchais d'ailleurs la préparatrice physique, le nom de Lewis Hamilton, c'est Angela Cullen. Voilà, j'avais oublié son nom.
Exactement.
C'est ça.
Et son...
C'est plutôt pour mettre à penser que c'est la préparatrice physique, je pense, mais c'est ça.
Exactement, et je trouve que c'est super important, déjà pour Hamilton, de l'avoir, parce que c'est une personne extrêmement importante pour lui. Et je pense que tous les pilotes devraient s'en inspirer, parce qu'on a souvent tendance à dire que la psychologie ne joue pas un rôle majeur dans le sport. C'est complètement faux, et la preuve avec elle. Je trouve que
c'est un duo
qui fonctionne parfaitement bien.
Maintenant, ils en ont tous un préparateur qui est vraiment à leur côté.
Oui, mais c'est vrai que tu vois pas autant d'alchimie.
Oui, non, c'est sûr. Mais
deux que là.
Hamilton disait qu'Angela.
J'ai l'impression
que
c'est sa mère, quoi, limite. Quoi.
Non, qu'elle avait révolutionné sa vie et qu'il en était à ce point-là, que c'était grâce à elle. Donc, c'est au-delà de la préparation physique. Je pense que c'est clairement une espèce de dame sœur amie professionnelle, quoi.
Ouais, c'est ça.
Tu me l'as enlevé de la bouche. C'est pas gentil, ça.
Ah merde, si on commence à se piquer nos phrases et tout, on va pas s'en sortir. Bon, allez, on avance, messieurs, ouais. Dames. On va aller maintenant du côté d'Aston Martin.
Ça va être assez rapide, je pense.
Rapide aussi, hein.
Ça va être assez rapide. Est-ce qu'on peut imaginer deux secondes que Stroll se fasse virer par son père ? Non.
Alors, écoute.
Il est encore jeune et surtout, il n'est pas mauvais.
Moi, j'ai marqué place assurée par papa plus performance.
Exactement. Voilà. C'est, on c'est est d'accord. c'est ça.
Le gars est performant. Et ok, son père est patron de l'écurie, moi ça me choque pas. Il est performant, il répond sur la piste.
Honnêtement, il a pas démérité.
Voilà, moi je trouve qu'il est à sa place.
D'accord.
Pour moi, c'est pas un Mazepin, par exemple. Si on fait une comparaison. Pour
exactement. Moi, et à cet endroit-là, j'ai juste mis place assurée par papa. J'ai pas mis performance.
Exactement. Ouais, on est bien d'accord. Oui, parce que papa Mazepin et Mazepin où on sait pertinemment pourquoi il est là. Pour Stroll, on sait aussi pourquoi il est là, mais on sait aussi qu'il a du talent. Alors que Mazepin, j'en suis pas sûr. Si on devait faire un comparatif entre les deux.
Mazepin, moi je le juge pas pour l'instant, parce que je vais dire que faire un comparatif entre Stroll dans une Aston Martin et Mazepin dans un tracteur c'est quand même compliqué.
Dans une tondeuse à gazon.
Voilà.
Moi, j'ai honnêtement, je trouve que Mazepin, il gagne en propreté et surtout d'un point de vue mental, je le trouve quand même mieux. Et aussi au niveau de sa communication, je trouve qu'il s'est calmé quand même.
Moi, j'aimerais que la AS soit plus performante, tu vois, qu'elle gagne genre, au lieu de jouer qu'elle joue au moins, allez, la 7e, 8e place du constructeur, tu vois, un peu mélangé. Ouais. Ou alors le voir dans une autre écurie parce que. Certes, il n'a pas forcément, même s'il a eu sa super licence, il n'a pas forcément mérité sa place comme tous les autres, mais il est très très loin d'être mauvais quand même.
Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Mais bon.
Pour Vettel, il est en contrat jusqu'en 2023 avant une potentielle retraite.
Pour moi, Vettel, il reste là. Vettel.
Ouais, il reste
pour
là.
Pour moi, Vettel va au moins faire 2022. Ouais. 2023, je sais pas encore, ça va dépendre de 2022. Peut-être que 2023, ils bougeront le contrat comme homme de staff ou ambassadeur.
Ouais.
Mais pour moi, il va rester jusqu'au bout. Ouais.
Toi, Dani, tu es d'accord avec ça ?
Oui, je suis totalement d'accord.
Ouais.
Rien de plus à rajouter.
Bon, on passe à AlphaTauri, si ça vous va maintenant.
Aïe, aïe, aïe.
Ah.
J'ai des choses à dire.
C'est la seule écurie où je n'ai pas réussi à faire mon line-up. Je le dis,
Pour être franc, moi, je ne vois pas Gasly quitter AlphaTauri l'année prochaine. Parce que je pense qu'il doit continuer avec cette écurie-là. C'est le numéro 1. Il a encore besoin de progresser, mine de rien. Et il est dans un parfait confort et surtout, ça fonctionne très, très bien. Donc, pour moi, il ne doit pas bouger. En plus, il est dans une équipe qui le fait progresser. Tsunoda a prouvé qu'il avait le potentiel pour se démarquer. Il doit, pour moi en tout cas, améliorer son comportement et surtout éviter les erreurs bêtes. Mais là encore, je ne vois pas spécialement... je le vois pas spécialement bouger d'AlphaTauri l'année prochaine. Sauf si Red Bull, parce que bon, AlphaTauri et Red Bull, c'est la même chose. Sauf s'il décide de faire revenir Albon, qui est actuellement en DTM, il faut le rappeler. Donc moi je pense que Gasly et Tsunoda restera le duo l'année prochaine. Est-ce que toi, Chris, tu es d'accord avec moi ou pas?
Alors, sur Gasly, oui, sur Tsunoda, non.
Ok.
Alors, sur Tsunoda, alors attention, je juge pas Tsunoda comme étant un pilote expérimenté parce qu'il est en apprentissage, donc il a le droit de faire des erreurs comme tout le monde.
Ouais.
Mais faire des petites erreurs parce que tu apprends, oui. Répéter les mêmes erreurs régulièrement.
Le problème, c'est ça.
Voilà. Et déjà, il y a son problème qu'il est en train de devenir comme Kimi Raikkonen, c'est-à-dire qu'il est imbuvable à la radio. Alors,
exactement.
Que Kimi Raikkonen soit imbuvable à la radio avec 19 saisons de F1, personnellement, je m'en fous.
Oui.
Mais que Tsunoda soit imbuvable à la radio, ça me dérange.
Ouais.
On se rappelle l'épisode de Baku où il dit clairement à son ingénieur de la fermer, « Gars, c'est ta première demi-saison, tranquille. »
Il s'est pris un taquet, hein, de toute façon. Hein,
après,
il y a des nager en Italie et tout.
C'est ça. Après, il y a des petites erreurs. Il a fait un très beau Grand Prix de Bahreïn. Derrière, il prend le mur à Imola parce qu'il perd il perd sa voiture. Portimao, bon, c'est pas mauvais. Espagne, il abandonne. En France, il se met dans le mur dès le premier virage des qualifs. Là, tu vois, il y a beaucoup de choses. L'Autriche, il coupe deux fois la ligne des stands, alors que tu le sais depuis le karting, voire la F4, que ça ne se fait pas. oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, dès la F4, que ça soit la F4 France, la F4 ADAC ou la F4 italienne, tu le sais que la ligne des stands, c'est comme toi sur la route, la ligne continue, tu la coupes pas. Il le fait deux fois dans le même Grand Prix, alors que la première fois, son ingénieur lui a dit, Yuki, tranquille, coupe pas. Mm. Mais là où moi je suis moins sûr pour Tsunoda, et c'est même pas par rapport à Tsunoda, c'est par rapport à Red Bull qui pour moi s'est mis clairement dans la sauce, c'est qu'en F2, t'as Yuri Vips, t'as Liam Lawson et t'as Gian Daruvala.
Ouais.
T'en fais quoi de ces trois-là si tu gardes Tsunoda ?
Eh oui, c'est ça. C'est ça le problème.
Parce que le programme Red Bull, c'est quand même un des programmes qui, je crois, actuellement est le plus fourni en termes de jeunes pilotes.
Oui. Bah oui, complètement. Ouais.
Et là, tu as trois candidats potentiels à un baquet chez AlphaTauri. Donc, oui. Et comme on a dit que Perez devrait rester chez Red Bull, je vois pas Tsunoda monter chez Perez et chez Red Bull, et de toute façon, il a pas l'étoffe ni le coffre pour le faire.
Mm-hmm.
Donc, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu laisses une deuxième saison à Tsunoda en prenant le risque de ça marche ou ça marche pas ? Est-ce que tu dis à Tsunoda, bon, mais écoute, on arrête là, on te met pilote d'essai ou quoi que ce soit, et puis on va prendre un jeune de l'Académie Red Bull ? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'avoue que c'est...
Un retour d'Albon chez AlphaTauri ?
J'y crois pas.
Non, tu crois pas ?
J'y crois pas parce que AlphaTauri reste, même si AlphaTauri s'indépendantise de plus en plus de Red Bull, en ayant le droit de prendre des décisions vraiment en son âme et conscience en tant qu'écurie, c'est quand même Helmut Marko qui gère le programme jeune pilote. Quand t'es chez AlphaTauri, t'es en contrat Académie Red Bull et pas en contrat Red Bull. Donc étant donné qu'il est géré par Marko,
ouais, le fameux Helmut qu'on
le fameux tous. Helmut voilà. Après, c'est vrai qu'il y en a certains qui m'ont dit « Non, mais de toute façon, Tsunoda, faut pas galérer, il sera là l'année prochaine parce que c'est dans la négociation des moteurs avec Honda. » Moi, je dis à ces gens-là, les gars, n'oubliez pas qui dirige Red Bull, Horner et Marko.
Bien sûr.
Je suis pas certain qu'un contrat tacite avec Honda sur le fait qu'il garde Tsunoda les empêche de le virer.
Ouais, d'accord.
Je suis pas certain.
Toi, Dani, t'en penses quoi ?
Alors, comme je le disais au début, j'ai eu du mal à faire mon line-up pour AlphaTauri. Pour le coup, Tsunoda, moi, je le vois bien rester l'année prochaine, dans le sens où je te rejoins, Chris. Effectivement, il fait des erreurs un peu bêtes. Enfin, il est un peu brouillon sur certaines choses. Mais après, je pense qu'il manque vraiment, pour le coup, de maturité. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait venir plus proche d'eux, vivre plus proche, pour faire gagner en maturité. Et c'est vrai que ces coups de gueule à la radio, je trouve ça scandale. Mais en même temps, je me fais un peu l'avocat du diable. C'est un minot, il est dans une voiture qui va très très vite. Enfin, je sais pas, je le sens un peu dépassé. Donc, et je le vois quand même être là l'année prochaine, lui donner une seconde chance. Donc pour le coup, ça c'est plutôt dans ce sens. Après, concernant Gasly, bah, moi j'aimerais bien vraiment le voir ailleurs, dans le sens où... Tout à l'heure, JM, tu disais qu'il était en confiance avec une équipe qui le fait monter, etc. Et ça, c'est vrai. Mais pour le coup, je pense que maintenant, Gasly, il a la peau plus dure et il peut aller hors de sa zone de confort dans une autre écurie avec une autre équipe qui va voir en lui AlphaTauri le voit, mais vraiment voir le potentiel de grand pilote. Donc, pour le coup, moi, j'aimerais bien le voir ailleurs. C'est un peu, pour le coup, c'est personnel et c'est...
Oui.
C'est pas forcément fondé sur de la data, c'est plus vraiment
personnel. Oui.
J'aimerais bien le voir s'éclater, s'épanouir et être porté par une autre écurie que AlphaTauri.
Ok, très bien.
Mais je ne sais pas qui, du coup, pour le deuxième baquet. Ça, pour le coup, j'arrive pas à...
Ah, t'arrives pas à te...
J'arrive pas à me projeter, ouais.
Ok. Très bien. Bon bah voilà, en tout cas pour AlphaTauri, on va accélérer un petit peu le mouvement. On va passer sur Alfa Romeo maintenant. Là, pareil, je pense qu'il y a quand même des choses à dire. Je vais vous dire ce que moi je pense, mais alors de base, je vais vous dire tout de suite, j'avais mis pour moi Schumacher et Giovinazzi pour l'année prochaine. Maintenant, il y a des choses qui ont évolué, puisqu'on sait que la rumeur Bottas est de plus en plus persistante. Pour moi, je vous donne mon ressenti. Pour moi, Schumacher, il n'a plus rien à faire chez Haas, mais on sait en même temps qu'il y a des négociations de contrat qui sont en train de se faire pour le prolonger en 2022. Alors après, ça ne veut pas dire discussion, ne veut pas dire que ce soit signé, mais en tout cas, Schumacher chez Alfa Romeo, why not? On est quand même sur un pilote Ferrari, Alfa Romeo Ferrari, hein, c'est voilà. Pour moi, l'entente avec Mazepin, elle est catastrophique et pour évoluer, bah, il doit partir et se faire la main dans une écurie qui pourra en tout cas lui en donner les moyens. Alors pas pour devenir champion du monde, hein, mais en tout cas pour évoluer comme il se doit. Et je pense qu'Alfa Romeo, c'est certainement une des écuries les plus propres par rapport à ça. Après, pour Giovinazzi, honnêtement, je ne le vois pas spécialement partir en 2022. Je trouve qu'il est plus à l'aise, il maîtrise sa voiture. Par contre, le problème chez Alfa Romeo, c'est que pour moi, il y a une grosse concurrence, et notamment chez des jeunes, à savoir Aylot, il y a Schwartzmann aussi, qui peuvent espérer obtenir un baquet pour l'année prochaine, why not. Je pense que le pilote anglais, pour moi, aura en tout cas plus de chances d'y parvenir. Moi, honnêtement, Raikkonen, je ne le vois pas revenir l'année prochaine. Donc pour moi, je vais prendre un petit risque, parce qu'il faut se mouiller. Et je dirais Schumacher et Giovinazzi pour l'année prochaine.
Eh bien.
À vous.
intéressant. Alors pour le coup, moi j'avais noté Bottas. Un petit peu en reconversion, non. Mais voilà, d'aller chez Alpha pour vraiment mettre son expertise au service d'Alpha, sur le développement de la voiture, enfin... vraiment en pilote confirmé. Et j'avais mis avec lui soit effectivement Schumacher, soit Giovinazzi. Même si Giovinazzi, oui, enfin, pour moi, je trouve qu'il est un peu sans goût, sans saveur. Dans le sens où il ne marque pas les esprits, il fait des choses intéressantes. Je ne dis pas qu'il ne fait pas des choses intéressantes, mais il ne marque pas trop les esprits. Et pour Aylot, je l'avais aussi noté, j'y crois pas trop. Donc, si je dois donner un petit pronostic, je dirais Bottas Schumacher.
Ok. Et toi, Chris?
Alors, moi, je vais vous surprendre. Et d'ailleurs, je vais tendre une main à Dani. Déjà, Mick et Giovinazzi, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que déjà, okay. Mick devrait logiquement, entre guillemets, rester chez Haas, pas pour du sportif, mais pour du financier. Parce que rappelez-vous, Drive to Survive l'année dernière. Haas a besoin d'un sponsor allemand One and One et Haas a besoin de pognon. Donc, la relation Haas-Mick pour 2022, elle est win-win.
Ok.
Déjà.
Ouais, effectivement.
Il faut savoir autre chose sur Giovinazzi, Mick Schumacher, Kyle Mailot, Schwartzmann, etc. Ferrari n'impose plus de pilote à Alfa Romeo. Fred Vasseur, il a les mains libres. C'est-à-dire que s'il n'a pas envie de prendre de pilote de la FDA, il n'en prend pas. Et Ferrari ne lui dira rien du tout.
Ça, c'est très intéressant.
Voilà, ça a été annoncé au niveau du... Ben, ça a été annoncé aux alentours du 12 ou 14 juillet par là. C'est le PDG d'Alpha, Jean-Philippe Imparato, je sais pas comment on dit, qui a annoncé, il a même dit dans un... Je l'ai mis dans mon article que... Fred Vasseur était quand même plus apte que lui à choisir les pilotes et qu'il aurait les mains libres.
Oui.
Et étant donné, donc, Mick pour moi viendra pas, Kalu Mailot, du coup, je sais pas ce qu'il fait cette année, mais il est plus en monoplace, donc compliqué de faire le step en F1. Schwartzmann et d'autres, Schwartzmann pourquoi pas, mais je le trouve assez. Je trouve qu'il manque encore un peu de régularité en F2 sur les résultats. Sur l'enchaînement des performances, ce qui me dérange un peu. Et sur Giovinazzi, il a 27 ans, il n'est pas vieux, hein, loin de là, il a encore quelques années devant lui, mais pour moi, l'évolution, elle est trop stagnante.
Exactement.
Tu vois, il ne progresse pas suffisamment.
Ouais.
Et du coup, c'est pour ça que pour moi, en me basant sur le Russell chez Mercedes, et c'est là où je tends la main à Dani, je propose un petit line-up, Bottas Pierre Gasly.
Ah ouais.
Waouh.
Ah, le mec, il y va, quoi.
Aïe, aïe, aïe. Franchement, tu me fais rêver. Tu me fais un peu rêver. J'aime bien, j'aime bien.
J'aime bien, j'aime bien.
Ouais, j'aime bien,
si,
franchement,
si,
j'aime bien.
Si Bottas n'assure pas en tant que numéro 1, t'as encore Gasly derrière. Et ça reste deux pilotes qui sont très propres.
Et après, AlphaTauri, Alfa Romeo.
Bah, AlphaTauri, tu peux garder Tsunoda et prendre un jeune du programme.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des deux écuries, il n'y a pas un gap super important non plus.
Non, Alfa Romeo. Je pense que l'année prochaine, l'Alfa Romeo peut jouer avec l'AlphaTauri. Hein.
Ah, c'est pas mal, ça.
Je pense. Après, il faut se dire que 2022, dans le midfield, on enlève Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren. Faut se dire que dans le midfield, les cartes, elles sont rebattues. Hein.
Clairement.
Ouais, carrément.
Hormis les quatre premières écuries, on ne sait pas les autres de quoi elles sont capables.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Waouh, et vraiment,
c'est pour ça que cette saison 2022. Ah ouais, j'avoue, honnêtement.
Moi,
c'est
qui suis impressionné par le line-up de Alfa Romeo là.
Ouais. Ouais, ça donne envie.
J'essaye un peu de. J'essaye d'amener, tu sais, un peu les pop-corn, tu vois, un peu, de, tu vois, les... d'attirer un peu l'auditeur, tu vois, tu vois. Je fais un peu le titre putaclic, tu vois, un peu, tu vois, le truc...
Tu sais quoi, demain, on va faire un article, Gasly, Sinch chez Alfa Romeo. Voilà, merci, au revoir.
Ça serait beau. Moi, ce que on n'en a pas parlé, mais on parie quoi, en fait? Parce que moi, je veux qu'on fasse un bilan plus tard sur les qui avait bon sur quoi. Hein. Faut qu'on parie quelque chose. On va y réfléchir.
Ah, bah, on va y réfléchir. On va y réfléchir. Pas de problème. Ok, bon, en tout cas, sur Alfa Romeo, ça, c'est fait. Et Chris, effectivement, il marque un très bon point. Il aura le droit de revenir pour le prochain podcast.
Ah, c'est gentil.
On va passer maintenant pour Williams. Maintenant, je vous dis pour moi ce qu'il en est. Pour moi, l'année prochaine, je vois. Attention, je vois la paire Bottas et Latifi. Pour moi, Bottas, why not? Parce qu'on sait qu'il avait déjà piloté, notamment chez Williams, entre 2013 et 2016. Donc, une hypothèse qui n'est pas si déconnante que ça. Latifi, pour moi, restera chez Williams parce qu'on sait notamment qu'il est très apprécié du patron Jos Capito. Et malgré une voiture assez faible, c'est un pilote quand même qui est plutôt sérieux, qui est assez discret, c'est vrai, mais qui a l'air quand même de beaucoup travailler. Après, derrière, on sait aussi qu'il y a les Etken, Jack Etken, il y a Nissany, il y a Tictum également, Dan Tictum, et la championne des W Series, qui est Jamie Chadwick, c'est aussi une option. Et honnêtement, de voir une femme en F1, bah, ça serait quand même génial. Mais pour moi, je vois quand même une paire Bottas et Latifi. À vous.
Vas-y, Chris, surprends-moi encore une fois.
Alors, Latifi, comme dirait JM, why not? Ça va dépendre de deux choses. Hormis le fait que Jost Capito l'adore, est-ce que Dorilton Capital peut ou non se passer de son apport financier?
Ah oui.
Ouais.
Voilà. Déjà, c'est une composante importante. S'ils ont besoin de l'argent, le débat il est réglé, Latifi est dans la Williams l'année prochaine. S'ils n'ont pas besoin de cet argent, et je doute qu'ils en aient besoin parce que sinon ils n'auraient pas racheté Williams, surtout je pense que la FIA n'aurait pas validé le rachat de Williams si Dorilton n'était pas capable d'assurer les garanties financières pour faire fonctionner l'écurie.
Ouais.
Je doute qu'ils aient besoin de cet apport financier, mais pourquoi pas? Comme je dis, Latifi, why not? Pourquoi pas? Il est loin d'être mauvais, c'est pas la meilleure voiture du plateau, mais pourquoi pas? Aitken, il a fait une pige à Sakhir l'année dernière quand il remplace George Russell. Il est loin d'être mauvais, est-ce qu'il mérite de monter? J'ai pas d'avis sur la question. Dan Tictum, si c'est pour nous faire des 3 de front à Bakou avec une F1, autant qu'il reste en F2. Nissany, je vois pas pourquoi Nissany mériterait plus qu'un autre. Après, Jamie Chadwick, l'idée d'avoir une femme en Formule 1 me hype de fou.
Grave.
Maintenant, est-ce que c'est plausible? Je sais pas. Par contre, effectivement, moi, il y a un pilote et personne n'en a parlé. Et pourtant, les rumeurs n'arrêtent pas de tourner. C'est Nyck de
Pierre
Vries.
Gassi.
Non. Non, non, non. Non, non. Nyck de Vries.
Ah, oh, je voulais le dire, tu m'as volé ma réponse.
Mais fallait la
Surtout
dire.
qu'en Formule, et surtout, et surtout qu'en Formule AI,
Ben, il performe en Formule AI.
Ben,
Il
carrément.
est pilote Mercedes.
C'est
Il
ça.
a raté sa chance en Formule 1 en 2019 parce que ben, il y avait du monde devant lui. Et là, honnêtement, tu fais monter George Russell chez Mercedes. Bottas, tu lui trouves un autre poste hors du giron Mercedes, dont Mercedes-Williams. L'idée de enfin donner sa chance à Nyck de Vries et de voir réellement ce qu'il vaut, parce que je crois qu'il a quand même déjà 25 ou 26 ans,
Oui.
c'est le moment ou jamais.
Et Van Dorn?
Non, Van Dorn, non. Van
Non.
Dorn, je pense qu'il restera pilote essayeur de Mercedes ou de McLaren, je sais plus. Van Dorn.
Hülkenberg.
Ouais, bah
Non?
écoute, moi
Personne
c'était
n'y
ça,
croit
mon
autour
tournée
de
de
Hülkenberg?
Vraiment. Le débat est
Ah si,
ouvert.
mais je crois. Moi j'y
Le débat
crois,
est
dans le sens
ouvert.
où.
De
Où
Vries-Hülkenberg,
déjà.
moi ça me va.
Oui, moi c'est ça mon
Hülkenberg, c'est
avis.
pas dégueulasse, hein?
De
Ouais.
Vries-Hülkenberg, ça m'arrange parce que De Vries, inexpérimenté en F1, tu lui mets un gars qui connaît bien la F1,
C'est ça.
ça va tranquille. Ça va tranquille. Moi, c'est ouais, le line-up me plaît.
Et
Ah, ton
Hülkenberg, c'est un bon
line-up
pilote, hein?
hein?
Hülkenberg, c'est un bon pilote, hein?
C'est un bon pilote. Alors, c'est peut-être pas forcément un pilote taillé champion du monde ou taillé troisième,
Non,
quatrième
non,
sur la grille.
non, 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 non,
Mais
clairement pas.
en tout cas, c'est un pilote qui peut, pour 2022, clairement apporter un retour de piste pour Williams
Ouais,
pour travailler sur le
ouais,
modèle.
ouais. C'est
Eh,
cool.
franchement,
Je pense que Hülkenberg serait une très bonne pioche.
Exactement.
Et à la limite, ça rajouterait de l'expérience dans le line-up parce que De Vries, fait, quel que soit le pilote que tu mets, si tu prends pas Hülkenberg et tu gardes Latifi à côté, pour moi, le duo Latifi et un autre, hors Hülkenberg, serait trop inexpérimenté pour moi.
Je suis d'accord.
Ouais,
Je suis tout à fait d'accord.
oui, surtout que Williams a quand même besoin de pilotes quand même expérimentés pour s'assurer un petit peu un avenir entre guillemets quoi. Je pense que c'est mieux pour
C'est ça. Moi, je suis plutôt d'accord sur ce line-up-là. C'est celui que j'avais mis. Hein. De toute façon, en plus, Hülkenberg, je trouve, c'est un peu. Enfin, pour lui, il a dit que c'était comment dire, sa dernière chance l'année prochaine de revenir en F1, sinon il arrête et il ne retentera pas. L'histoire est belle, il a commencé chez Williams, je crois. Donc, bon, bah, l'un dans l'autre, pourquoi pas. Il a l'expérience, il est fiable. Alors, comme tu disais, effectivement, c'est pas un pilote qui sera 1, 2, 3, 4, mais il a quand même
Ouais, ça.
une expérience, il est fiable. Et effectivement, avec De Vries, c'est bien. Pour moi, c'est un bon line-up. C'est assez, enfin, quand je dis innovant, pour le coup, c'est assez surprenant, mais dans le bon sens. Donc, moi, je signe pour ça.
Ok, bon, bah écoutez, en tout cas, voilà. Là, honnêtement, chez Williams et chez Alfa Romeo, le débat est ouvert, mais on a fait quand même plutôt du lourd, je trouve. En tout cas. Dernière écurie à passer en revue, chez As. Pour moi, Mazepin ne bougera pas parce que papa est là et que c'est lui qui distribue les bifetons. Alors après, on avait entendu parler, je ne sais pas où ça en est, ça, mais on avait entendu parler de son service militaire qui rentre peut-être en ligne de compte. Alors je ne sais pas si ça sera le cas ou pas, parce que s'il est obligé de faire son service militaire, il sera obligé de quitter la F1 pour faire son service, puisque la Russie impose à chaque Russe de faire son service militaire. Après, bon, vu que c'est un pilote de F1 qui représente la Russie, etc., bon, il y aura peut-être moyen de moyenner, parce que bon, la Russie, voilà. Mais bon, en tout cas, moi je vois Mazepin quand même continuer l'année prochaine. Et pour moi, pourquoi pas Raikkonen qui pourrait peut-être trouver un point de chute dans cette écurie. Après, on l'a dit, et effectivement, ça semble en tout cas se dessiner. Schumacher pourrait effectivement revenir chez Haas l'année prochaine. Mais en tout cas, de base, j'avais mis Mazepin et Raikkonen l'année prochaine chez Haas. À vous maintenant de dire ce que vous en pensez.
Pour moi, Raikkonen, c'est la retraite ou Alfa Romeo.
Ok.
Ouais, pour moi, Raikkonen, c'est la retraite.
Je le vois jamais aller chez As.
Ouais, pour moi, c'est pas l'échéance. Et je pense que l'année prochaine, il va se retirer gentiment. Il va se retirer gentiment pour le coup. je pense. Bah,
de toute façon, oui, c'est... Bon, après, voilà, je vous dis, la line-up que moi, j'avais fait, c'était, ça date un petit peu, mais...
Après, je trouve effectivement... que le line-up Mazepin-Schumacher, effectivement, ça me semble plus probable, mais vu qu'il y a vraiment une espèce d'animosité, enfin, de mésentente entre eux, j'ai peur que ça soit un peu, d'un point de vue perso pour eux, pas une super année l'année prochaine, quoi. Enfin, je pense surtout à Schumacher, pour le coup, parce que...
Ouais. Quoi qu'il en soit, de toute façon, As, ça sera encore une année de merde pour l'année prochaine. Quoi qu'il arrive.
Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr, quoi qu'il arrive. Moi, je vois pas trop d'autres line-up que celui-là par rapport à ce qu'on a dit précédemment.
Ok. Toi, Chris, pareil ?
Bah, je vois pas d'autres line-up. Après, la question à se poser, comme disait Dani, sur la relation Mick-Mazepin. Oui, elle est mauvaise.
Elle est dégueulasse. Hein.
Après, oui, elle est clairement dégueulasse. Il faut appeler un chat, mais après, qu'est-ce qu'on attend de As l'année prochaine ?
Oui. Bah, rien.
Est-ce que vraiment, aujourd'hui, pour le paddock F1, c'est gênant que les deux s'entendent pas ?
Bah, c'est plus gênant pour Schumacher, pour moi, que déjà pour Mazepin. Après, pour As, ça n'a aucun impact, parce que de toute façon, ils seront toujours derniers et ça ne changera pas.
Et ils seront toujours derrière Mazepin, donc ça ne changera pas.
Voilà, donc...
Ouais, c'est ça.
Pour moi,
c'est plus problématique pour Schumacher qu'autre chose.
Oui, c'est exactement ça.
Pour moi, pour Schumacher, c'est problématique. Ah,
je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, à la limite, moi, je pense que ça peut lui amener du bénéfique. C'est que il a une saison supplémentaire pour apprendre sans avoir aucune pression.
Mm-hmm.
Ça lui fait deux saisons complètes en F1 où il peut apprendre, où il aura le droit de faire des têtes à queue. On lui dira rien parce que As n'a pas une diffusion télévisuelle importante, donc on ne le verra pas forcément. Mm-hmm. À part s'il y en a qui s'amusent à faire les courses complètes en on-board, mais ça, c'est pas mon cas. Donc, moi, personnellement, je vais dire que faire une deuxième saison chez As... Et après monter éventuellement chez Alpha, si Bottas ne fait qu'une année ou quoi. Oui, pourquoi pas, là, ce sera plus plausible. Il aura déjà deux saisons dans les pattes, il pourra commencer à supporter une pression les attentes et puis surtout de par le nom qu'il porte.
Ouais, t'as raison, hein. Mais je trouve qu'en même temps, le côté positif dont tu parles, y a aussi le côté négatif. Moi, je le vois plus comme... encore une année avec un coéquipier où c'est pas la plus grande entente, dans une voiture pourrie. Alors certes, ça lui laisse le loisir de se tromper, mais est-ce qu'il a peut-être pas aussi envie, il est dans la fleur de l'âge, il est tout plein d'ambition d'aller dans une écurie qui va quand même plus le porter et où il a en tout cas plus de chances de se bagarrer. Moi, je le vois plus comme ça.
Alors, il faut savoir que Schumacher est membre de la FDA, donc Ferrari Driver Academy, que de toute façon, l'alternative à As, c'est forcément Alfa Romeo pour moi. Il n'y a pas d'autre alternative de toute façon.
Alors, honnêtement, Mick peut rester chez As. Maintenant, il peut avoir envie d'aller voir ailleurs. Et là où, effectivement, je vous rejoins tous les deux, c'est que la seule alternative plausible, c'est Alfa Romeo.
Bien sûr.
Maintenant, certes, Ferrari n'impose plus de pilote à Alfa. Mais si Alpha ne trouve pas de deuxième pilote du même niveau que Bottas, ou alors de trouver un coup de poker à la Hülkenberg ou autre vraiment intéressant, on n'est pas à l'abri que Fred Vasseur aille chercher Mick Schumacher. Hein.
Bah, honnêtement,
il a les mains libres, il peut le faire. Hein.
Enfin, Romeo, honnêtement, ça aurait de la gueule. Alors, j'ai trouvé un article là sur Auto News et c'est Steiner qui a confié au magazine allemand Motorsport Total. Où il disait, parce que bon, évidemment, on parle de cette signature de Schumacher, hein, déjà depuis un petit moment, où il dit le contrat de Mick est signé par trois parties. Il a également des liens avec Ferrari, donc il y a encore des aspects qui doivent être résolus. Il y a un accord avec Mick, mais pas encore de signature. Bien sûr, ce serait beaucoup plus simple si l'accord était juste entre lui et As. Donc, il y a un accord, mais pas de signature, parce que il y a aussi derrière le fait que Schumacher est un pilote Ferrari aussi derrière.
Exactement. Après, il ne faut pas se leurrer. Mick Schumacher, il va chez As parce que As, c'est un moteur Ferrari. Hein. C'est tout. Hein. S'il n'y a pas le moteur Ferrari dans As, malheureusement... Si As n'est pas motorisé Ferrari...
Oui, il n'y a rien.
Ben, tu as deux solutions. Soit ils le mettent à la place de Giovinazzi cette saison, soit il fait une saison blanche sans course en monoplace, parce qu'à savoir que le champion de F2 ne peut pas se réinscrire en F2. Donc, oui. Donc voilà, c'est, on va dire heureusement que As était motorisé Ferrari à ce moment-là. Ça, ouais. Ça lui permet de monter. Maintenant...
Ouais, bon. Bon, en tout cas, c'est chez As, en tout cas l'année prochaine, on est d'accord, c'est, enfin, en tout cas pour vous, ça restera Schumacher et Mazepin l'année prochaine. Bon, de toute façon, Mazepin, il n'y a pas de question à se poser, de toute façon.
Ouais.
Mais t'avais mis quoi, toi, Dani? Tu pensais quoi?
J'avais mis ça aussi.
T'avais mis ça aussi?
Ouais. Okay.
Toi, Chris, à peu près pareil aussi?
Moi, j'avais mis ça, mais ouais, je vais te dire, ouais, pour moi, 70%, c'est le line-up de l'année prochaine.
Okay.
Parce qu'après, voilà, il peut toujours y avoir des... Il peut toujours y avoir des choses,
oui.
Des surprises. Maintenant, As, je crois, n'a pas d'académie. Et le seul, et le troisième pilote, il me semble, c'est le fils d'Enzo Fittipaldi, Pietro, je crois, c'est. Oui, c'est Pietro Fittipaldi, je crois. Celui qui avait remplacé Asakir.
Ah, le troisième pilote chez As?
Ouais, le Brésilien qui avait remplacé Grosjean à Sakir. Oui, c'est Fittipaldi, mais je ne sais plus son prénom.
Pietro. Mais bon, Pietro.
Pietro Fittipaldi. Mais, mais bon, t'enlèves Mick pour mettre Pietro Fittipaldi, tu régresses, quoi.
Ouais, je pense aussi.
Donc, ça, sans être méchant avec lui, hein, mais...
Non, mais oui, on est d'accord. On est d'accord.
Mais ouais. pour moi, tu régresses, donc...
On est d'accord. Ok, bon, bah écoutez, en tout cas, ça y est, on a fait le tour des écuries, et donc de nos line-up pour l'année prochaine. Juste un petit mot, Chris, parce que tu as parlé à plusieurs reprises de Drive to Survive. Moi, j'avais fait un podcast dessus, c'était le troisième ou le quatrième, je ne sais plus. Où je défendais cette série parce qu'il y a aussi beaucoup de détracteurs de cette série. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, alors vraiment très brièvement, qu'est-ce que vous pensez de cette série pour la F1?
Tu veux commencer, Chris?
Vas-y, je te laisse y aller.
Moi, je trouve ça très bénéfique dans le sens où déjà la F1, c'est un sport qui est très difficile d'accès à tous les niveaux. C'est-à-dire que demain, t'as ton enfant qui veut faire de la F1, bah, ça va être costaud de payer le karting, etc. Mais aussi pour quand t'es spectateur, bah, c'est cher parce que c'est sur des chaînes payantes, etc. Donc le fait que ça soit popularisé sur Netflix, je trouve ça très très bien. Et puis aussi, il faut le préciser, la F1, c'est énormément de réglementation. Et si tu n'es pas intéressé ou si personne t'explique, bah, va comprendre en fait tout ce qui se passe. Donc là, j'ai trouvé ça cool que Netflix popularise, enfin, je dirais même plutôt vulgarise un peu la F1, dans le sens où c'est très basique, c'est expliqué de manière très simple, et ça montre plutôt l'aspect relationnel entre bah, les différentes écuries.
C'est l'aspect psychologique aussi qui est important.
L'aspect psychologique, les teams principaux, tout ça. Donc je trouve ça assez, assez chouette.
Ouais.
Évidemment, c'est Netflix, donc évidemment, c'est un peu romancé et t'entends les moteurs bien plus forts.
C'est logique.
Mais c'est normal, mais c'est du logique. Spectacle, on n'est pas là pour un documentaire. Exactement. Et si ça fait plaire, enfin, découvrir le sport à d'autres gens, mais c'est trop bien. Et je fais un tout petit aparté sur le fait qu'il y a beaucoup, notamment, de filles qui ont découvert la F1 avec. Drive to Survive, alors si c'est parce que le pilote est beau ou parce qu'elles ont un réel coup de cœur sur le sport, ça peu importe, mais elles sont très décriées et on va tout de suite les catégoriser en disant ouais, tu t'aimes ça juste pour cette série-là en fait. Je trouve ça vraiment nul et enfin, c'est pas cool du tout pour les femmes qui essayent de découvrir un sport ou de s'intéresser.
Bah, même les femmes ou pas, parce que c'est vrai que t'as quand même beaucoup de gens, on leur met un peu dans les dents qu'ils ont découvert la F1 grâce à cette série-là et qu'en gros, c'est pas bien parce que du coup, c'est un peu romancé, etc. Mais en fait, ça a redonné quand même ses lettres de noblesse à la F1 quand même.
Exactement.
Ça fait une sacrée pub.
Et puis, c'est romancé.
Pour donner la F1, il y a plein de gens qui voulaient plus entendre parler, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. C'était un sport de beauf. Moi, quand je dis que j'aime la F1 au travail, Autant te dire qu'on dit ah t'as un peu une beauf. Bon bref, ça me passe au dessus, mais c'est pas le souci.
Ouais, mais je vois. Ouais.
Ce que je veux dire, c'est que en fait t'es pas moins fan ou t'es pas moins connaisseur si t'as regardé en commençant avec cette série là. Il faut bien commencer quelque part en fait, tout simplement. Et en plus, certes c'est romancé Netflix, mais j'ai envie de dire juste regardons le crash entre Verstappen et Lewis qui est totalement romancé partout par les propres protagonistes, enfin par Red Bull en l'occurrence. Donc oui, c'est un sport où il y a un peu du drama sans Netflix en fait. C'est un sport qui est beaucoup dirigé par l'argent, faut pas l'oublier. Donc il y a un petit.
C'est de la politique aussi. Hein.
C'est de la politique aussi, donc c'était le sport tout trouvé pour Netflix. Et moi, cette série, je l'aime beaucoup. Je la trouve vraiment cool. J'ai adoré la regarder. Et pour le coup, mon époux, qui ne regarde pas du tout la Formule 1, il l'a trop aimé aussi. Et bon, après, ça ne l'a pas donné la passion de la Formule 1, mais c'était l'occasion de lui faire découvrir. Donc pour moi, cette série est très cool.
Moi, c'est pareil. On l'a regardée avec ma femme et mes enfants. Et franchement, voilà, c'est génial, quoi. C'est vraiment une super série. Et j'ai pas découvert, parce que moi je suis fan de F1 depuis pas très longtemps, mais honnêtement, je me suis pas découvert une passion grâce à ça, mais honnêtement, ça a renforcé la passion. Et clairement, parce que la série est super bien fichue et parce que ça raconte quelque chose. Et d'autres sports à l'image du foot, par exemple, que j'aime beaucoup aussi, le problème c'est que ça manque de programmes comme ça pour du coup faire découvrir le foot aux gens. Et le côté relationnel, le côté psychologique, etc., dans cette série, elle est hyper importante pour découvrir un petit peu ce que c'est et de voir un petit peu dans quel univers aussi ils sont. Et je trouve ça, honnêtement, je trouve ça super important, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Et puis, il faut aussi... En tout cas, c'est mon avis personnel, étant donné que la femme, elle a vraiment voulu que la F1 soit beaucoup plus populaire aux États-Unis. C'était un sacré beau coup de com' de s'associer à Netflix pour vraiment leur montrer qu'il n'y a pas que la NASCAR et l'IndyCar. Ouais, il y a la F1 et c'était un outil promotionnel incroyable. Donc, c'est un tout gagnant.
Et toi, Chris, du coup ?
Alors, moi, je ne vais pas forcément... revenir sur le côté positif de la série parce que vous avez tout dit en fait. Moi je sais que, comme je l'ai dit dans ma présentation en début de podcast, je suivais de manière un peu plus extérieure la F1, mais c'est vrai que le truc qui m'a donné envie d'aller chercher l'abonnement F1 TV, c'est quand même la série, parce que c'est vrai que je regardais encore les résumés de GP et tout, mais j'étais pas abonné, donc c'est vrai que ça m'a donné envie d'y aller. Mais moi, j'ai un gros reproche à faire à la série.
Ouais.
C'est ce côté ultra-dramaturgie. Et le problème qu'il y a, c'est que c'est tellement dramatique. Enfin, il y a tellement de drama. Alors, je mets de côté l'épisode Grosjean, parce que de toute façon, tu peux pas faire autrement que mettre du drama. Mais ça a mis tellement de drama que ça a attiré une partie du public qui est limite devenue néfaste.
Ouais.
Tu vois, c'est-à-dire que Netflix c'est super bien, mais le problème qu'il y a c'est que ça, en vulgarisant beaucoup trop le format, ça, si tu veux, attirer un public beaucoup 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 trop jeune et surtout ultra violent dans le paysage des réseaux sociaux actuels. Et ça, malheureusement, je sais pas Daniel comment elle le perçoit sur son TikTok ou sur ses réseaux sociaux. Mais pour vous donner qu'un exemple, j'ai sorti deux vidéos réponses à des commentaires sur le crash Hamilton-Verstappen à Silverstone.
Ouais.
J'ai été obligé de fermer les commentaires parce que ça devenait ingérable. Et j'ai même pris la décision, en épinglant les commentaires et en le mettant sur mes réseaux sociaux, que tant qu'on aurait ce public-là en F1, je n'ouvrirai plus les commentaires sur des vidéos parlant de Verstappen ou d'Hamilton, quel que soit le sujet traité.
Ouais.
Parce que c'est devenu trop anxiogène. Et je le vois même avec Lando Norris. D'ailleurs, je vais faire une dédicace à ma très chère Candice. Parce que, comme disait Dani, les femmes ont le droit d'aimer le foot, le rugby, la Formule 1, la danse. Voilà, une encore fille, c'est pas fait que pour danser, un garçon, c'est pas fait que pour jouer aux petites voitures.
Exactement.
Et je pense que on a le droit de chacun aimer ce qu'on veut. sans avoir besoin, un, de se justifier et de devoir suivre un chemin tout tracé. Voilà. Donc, si Dani, ça l'a fait kiffer de regarder la Formule 1, si Candice, ça l'a fait kiffer de regarder la Formule 1, ben moi, je suis fier de ça, parce que ça veut dire que la Formule 1 attire un nouveau public et je souhaite de tout cœur qu'on ait une femme en Formule 1, parce que ça confirmera le chemin que prend le sport. Voilà. Ça confirmera le chemin que prend ce sport et je pense que ça ne peut être que bénéfique.
Je suis d'accord avec toi et d'ailleurs je voulais en faire une vidéo parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et tu me demandais si je le remarquais sur les réseaux. Alors moi, entre guillemets, j'ai la chance d'être sur un créneau où je parle pas forcément, en tout cas pour le moment, d'actu F1. C'est plus un côté éducation F1 sur des termes très très simples, etc. Mais j'ai droit à quelques... Alors pour le coup, non, ça va, j'ai pas encore eu, après j'ai pas énormément de followers non plus, mais j'ai pas eu de commentaires désobligeants. Après, c'est très souvent des hommes, parce que je suis plus suivie par des hommes, parce que c'est comme ça, j'ai regardé les stats, qui sont des « Jean-Michel, je sais tout, je sais mieux que toi ». Enfin, ils ont un peu l'impression qu'en fait, je me suis réveillée, j'ai fait une vidéo, je me suis pas renseignée avant. Bon, ça me passe un peu au-dessus, quand t'es une femme, t'es un peu habituée à ça. Mais effectivement, je sais que dans plusieurs commentaires, on m'a demandé « Quel est ton pilote préféré et quelle est ton écurie préférée ?» Répondre sur mon écurie préférée, ça ne me dérangera pas. Répondre sur mon pilote préféré, bah, pour le coup, je n'ai pas envie d'y répondre. Je me suis un peu grillée ici parce que je l'ai dit qui étaient mes pilotes préférés. Mais en vidéo, je ne le ferai pas parce que je le sais que dans les commentaires, on va me dire « Oui, tu aimes ce pilote-là parce que tu es une fille, que tu le trouves beau, mais de toute façon, c'est un pilote de merde. » Et je n'ai pas envie de m'exposer et de devoir rentrer dans un débat, de justifier mes choix parce que je suis une femme. Donc, tu vois, je m'interdis quand même de répondre à certaines choses pour éviter ce genre de commentaires désobligeants.
Ouais, on est bien d'accord. Bon, en tout cas, on est plutôt d'accord, effectivement, sur le fait que Drive to Survive, c'est bien, qu'il faut le regarder, qu'il ne faut pas spécialement pour le prendre pour argent comptant tout ce qui est dit dedans, parce qu'effectivement, il y a un montage... C'est romancé, il faut que ça soit aussi du spectacle, ce qui est tout à fait logique. Après, il y a un autre truc sur lequel je voulais revenir, c'est sur le côté un peu chaud, le côté un peu accident. Ça aussi, je trouve que ça attire aussi le public avec ça, et il ne faut pas oublier que le sport automobile, ce n'est pas que des accidents, et ça ne se résume pas qu'à ça. Parce que souvent, le côté spectacle, c'est uniquement le côté accident, le côté rentre dedans et tout. Et ça, malheureusement, je trouve que c'est aussi un peu néfaste de ce côté-là. Mais sinon, tout le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Et si les gens découvrent la F1 grâce à ça, eh ben tant mieux.
Bah, c'est vrai qu'on en avait parlé, qu'on n'était pas forcément à l'aise avec les crashs. Quand tu vois une personne qui fait du patinage artistique et qui tombe, bon, tu peux un peu rigoler parce que potentiellement, elle s'est fait un petit peu mal, elle aura un bleu.
Oui,
quand tu vois un mec à 300 km/h sur circuit qui se prend un mur, c'est pas les mêmes conséquences. Ouais.
C'est ça, exactement. Et souvent, il y a une mise en avant un peu de ces crashs-là qui est un peu... C'est un peu malaisant quand même, je trouve.
Mais je ne sais plus qui avait dit que c'était un peu malaisant de voir des espèces de compiles sur YouTube de tous les crashs. Moi, je suis tellement pas pour. C'est trop bizarre, c'est vraiment pas cool. Et même dans Drive to Survive, ils ont montré le crash de Grosjean parce qu'ils étaient obligés. Parce que voilà, c'est un événement trop majeur pour être passé sous silence. Mais je trouve que c'était quand même plutôt bien fait. Mais ils ont trop teasé là-dessus. Moi, c'est un des épisodes que j'ai le moins aimé.
Oui, on est d'accord.
Mais du coup, je vais vous rejoindre sur un truc et je pense que je terminerai là-dessus personnellement. J'ai vu sur TikTok, comme disait Dani, ce qu'ils appellent aujourd'hui des TikTokers, faire des vidéos sur paix à son âme, Jason Dupasquier. Le jeune pilote suisse de Moto3 qui s'est tué au Mugello il y a 2 mois, je crois, de ça.
Oui.
Comme ça, où j'ai fait une vidéo personnellement avec juste quelques photos du pilote, une musique de fond, un petit texte. J'ai dû faire 3000 ou 5000 vues, quelque chose dans ce genre-là. Après, je cours pas après les vues. Il y a eu des vidéos, et d'ailleurs, le frère de Jason a demandé à ce qu'elles soient retirées. Il y a eu des vidéos où on voit son crash qui ont fait 300, 400, 500 000 vues. Et j'ai même un ami TikToker sur une vidéo où il n'a pas mis le crash, mais il a juste mis une vidéo où on le voit prendre un virage et une musique de fond, il a fait 1 million de vues. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'on a beau faire le contenu qu'on veut, si aujourd'hui tu ne fais pas le contenu que recherche le public, tu ne fonctionnes pas. Et ça fonctionne pour la F1, mais ça fonctionne également pour la musique, si tu veux faire le parallèle. Tu regardes la musique qu'écoutent les gamins aujourd'hui. Voilà, c'est, il faut faire ce que le public veut entendre. Sinon, voilà. Donc, mais c'est malheureux, parce que moi, personnellement, je préfère me mettre le dimanche dans mon canapé et voir des dépassements à 300 km/h, roue contre roue, vraiment comme ça, que de voir des accidents. Alors, certes, à Silverstone, j'ai sauté de ma chaise quand j'ai vu les deux s'accrocher à Cops, mais...
Ouais, bien sûr.
Mais l'adrénaline... Mais je vais dire que l'adrénaline est redescendue très très vite parce que, certes, je suis ni supporter d'Hamilton, ni supporter de Verstappen. Moi, je suis un 100% Alpine et un 100% Fernando Alonso. Oui. Mais je me suis quand même inquiété un minimum parce que, même si j'aime pas Verstappen, je vais pas me permettre de dire « Ouais, c'est bien fait. » Voilà.
Ben, bien sûr.
Certes, il a eu un pilotage par l'époque qui était pas ouf. C'est d'ailleurs certains de ses comportements qui ont fait changer le règlement FIA et tout, entre autres. Mais c'est pas pour autant qu'on doit lui souhaiter de se faire mal dans un accident. C'est pour ça. Pour autant, voilà, le crash m'a pas vraiment envoyé du spectacle pleine face. Par contre, la remontée de Lewis qui malgré ses 10 secondes parvient avec un rythme de course monumental, et surtout ce superbe coup de génie de Mercedes qui a complètement débraqué les ailerons pour gagner en vitesse de pointe, ça lui fait gagner la course, quoi. Combiné à un super pit stop qui dure quand même 4 secondes 2, mais quand t'as plus Verstappen dans les pattes, 4 secondes 2, c'est limite un super pit stop. Tu vas gagner la course, quoi. Donc, voilà. Et ça, je préfère voir ça que voir des crashs, quoi. Honnêtement.
On est d'accord. On est tout à fait d'accord.
Je veux dire, si les gens très aiment bien voir des crashs, ils vont choper le Canada 2007, Robert Kubica qui prend 74G et qui termine en tonneau dans l'épingle à cheveux du Canada avant la grande ligne droite. Ils vont se régaler. Ils vont se régaler. Non. Mais à côté,
ils jouent aux jeux vidéo, quoi.
Voilà, mais à côté, tu prends ce crash de 2007, à côté, le crash de Verstappen, c'est pas grand chose au final.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'il bouge pas tant que ça, quoi.
C'est vrai. Ok, bon, écoutez, en tout cas, on est plutôt d'accord sur la question. Bon, en tout cas, on s'était fixé une petite limite de 45 minutes. On l'a largement dépassé. Mais par contre, je tiens quand même à le préciser, c'est certainement le meilleur podcast que j'ai fait jusque-là. Parce que déjà, on est trois et déjà, forcément, il y a de l'interaction, il y a de la discussion, il y a du débat aussi. Et il y a aussi des connaisseurs, donc forcément, je trouve que ce podcast, en tout cas, sera de très bonne qualité. Je pense que les auditeurs en auront pour leur argent. Enfin, leur argent, c'est quand même gratuit, mais bon, voilà, vous m'avez compris. voilà.
Après, il faut se dire qu'il a duré une heure et demie, mais bon, on va dire qu'il y a quasiment une heure où on fait que le line-up. C'était, je veux dire, un truc très prévisible, quoi.
Exactement. Non, puis le coup Drive to Survive, c'était moi qui l'ai amené sur la table parce qu'on en a parlé et voilà, je voulais avoir votre ressenti dessus. Parce que j'entends beaucoup de gens raconter des bêtises sur cette série et ça m'énerve un petit peu. Voilà, bon, en tout cas, l'épisode 20 est terminé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si vous êtes sur Apple Podcast, à noter et à laisser vos commentaires. C'est très, très, très important. Monoplace, c'est également sur Instagram, sur TikTok maintenant, sur Facebook aussi, sur Twitter. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas également à vous rendre sur le site monoplace-podcast.com pour retrouver du coup tous les articles que l'on écrit, hein. En général, il y a des articles toutes les semaines. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci beaucoup Dany et merci Chris d'avoir rejoint l'équipe et merci beaucoup pour ce beau podcast que nous avons fait. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux.
Merci à toi JM.
Merci à toi JM. Merci Dany.
Merci Chris, merci Dany. Exceptionnellement, il n'y aura pas de podcast pour le Grand Prix de Hongrie, puisque je suis en vacances, donc pas de podcast, mais je pense que Dany et Chris en parleront sur leur réseau, donc n'hésitez pas à vous rendre du coup sur les leurs pour débriefer tout ça.
Je vais attraper la balle au vol. Je tiens un live dimanche à 18h après le Grand Prix.
Ah, voilà.
Et d'ailleurs, ben, si Dani veut m'accompagner, ben, c'est avec grand plaisir.
Eh bien, pourquoi écoutez, pas, pourquoi
si
pas.
Je peux et si j'ai la chance de le voir, mais je ne pense pas, j'essaierai de vous rejoindre, de vous faire un petit coucou. Pardon.
Okay.
Voilà. Ok, bah écoutez, voilà, c'est fini. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce Monoplace épisode 20. À très bientôt. Et puis, bah, n'oubliez pas, vive F1 et vive Monoplace. Merci beaucoup. Salut.
Salut.